À vous qui vous apprêtez à écouter Mortel, ce podcast aborde des sujets sensibles relatifs à la mort d'un proche. Assurez-vous d'être dans de bonnes conditions pour l'écouter. Nous vous recommandons de ne pas laisser traîner des oreilles trop impressionnables autour de vous. Mon père est mort le 22 décembre 2015 à la clinique Jeanne Garnier, dans le 15e arrondissement de Paris, des suites d'un cancer du larynx. J'avais passé la journée avec lui la veille, et le médecin m'avait prévenu qu'il lui restait plus que quelques semaines. Un mois et demi peut-être. Mais dans la nuit, il s'est mis à ressortir de fortes douleurs. Il a appelé le personnel médical, qui lui a administré de quoi le soulager et lui permettre de dormir. Et il s'est plus jamais réveillé. Ça a transformé une mort attendue en mort brutale, et malgré tous les préparatifs psychologiques qu'on avait mis en place, je me suis écroulé. On en a parlé pendant des années. La veille, on avait repassé en revue toutes ses dernières volontés pour la millième fois. Le médecin m'avait prévenu qu'il n'y en avait vraiment plus pour longtemps. Et ça n'avait rien d'une surprise, mais peu importe à quel point on s'y prépare, quand ça vient, ça gifle fort. La mort de mon père, j'y étais préparé non seulement parce que son cancer a tenu 4-5 ans avant de l'achever, mais surtout parce que mon père était obsédé par sa mortalité. J'ai passé toute ma vie, dès la maternelle, à l'entendre me mettre en garde contre sa propre mort. Il me répétait sans arrêt qu'il ne vivrait pas très vieux, qu'il verrait sûrement pas mes enfants, sous-entendant que ça pouvait arriver demain, après-demain, ou dans 5 minutes. L'émotion est là, hein ? Il a fait de la mort une entité quasiment palpable et omniprésente. Et quand on parlait pas de la sienne, on parlait de celle des autres. On passait des heures dans les cimetières, on regardait des photos de scènes de crime ensemble, on cherchait la date de décès des gens célèbres. Elle était toujours là, par-dessus notre épaule, à guetter nos moindres faits et gestes. Quand il m'a emmené voir le 7e saut de Bergman, quand j'avais quelque chose comme 2 ou 3 ans, parce que oui, c'était ce genre de père, j'en suis sorti en lui disant « Dis papa, tu m'emmèneras voir une mort ?» Il m'a raconté cette anecdote environ 78 fois pour illustrer à quel point ma fascination pour la mort remontait loin.
« Dis papa, tu vas me faire voir une mort ?»
Sans vouloir me la péter, je suis devenue une experte de la mort. J'ai une petite faux tatouée sur le bras pour me rappeler sa présence constante et tout ce qui l'entoure me fascine. Ça m'a permis de constater à quel point la peur de la mort était courante chez les gens. Et peut-être que vous êtes très mal à l'aise depuis le début de l'épisode, précisément parce que vous faites partie de ce club. Et c'est pour ça que je suis là. Mon objectif, à terme, est de vous réconcilier avec votre mortalité et celle des autres. Pas simple, je sais. Mais on va y aller en douceur. Montez dans ma barque, remontons le Styx ensemble, et tentons de mieux comprendre et peut-être d'apprendre à aimer cette mort à laquelle personne n'échappe. Épisode 1. Voir la mort venir. Je suis Taous Merakchi, bienvenue dans Mortel. Quand mon père est mort, j'étais dans sa chambre. J'étais avec lui quand il a expiré son dernier souffle. Au dernier bal de l'opéra, j'ai passé 5 heures à son chevet, à lui parler, à lire le Balzac qu'il avait emporté avec lui, recroquevillé sur une chaise inconfortable. Dans cet immense rendez-vous, à aller pisser aussi vite que possible de peur qu'il ait la mauvaise idée de crever pendant que j'étais aux toilettes. Je n'ai passé que 2 jours dans l'ambiance d'une unité de soins palliatifs, mais ça m'a permis d'en avoir un bon aperçu. Les soins palliatifs, ce sont les soins procurés à un patient qui se trouve très souvent au stade terminal de sa maladie. C'est donc un lieu très particulier, intimement lié à la mort. L'objectif des soignants est alors de soulager les douleurs plutôt que de soigner. J'ai découvert un lieu très étonnant, où les patients entrent en sachant qu'il y a peu de chances qu'ils en ressortent vivants, et où le personnel fait son maximum pour alléger leurs douleurs et leurs peurs, ainsi que celles des proches qui viennent vivre ce moment si particulier avec eux. Je ne voyais pas de meilleure façon de commencer ma réflexion sur la mort qu'en reprenant l'histoire à sa genèse, ou à sa fin, ça dépend comment on voit les choses, et d'aller parler à ceux qui se sont occupés de mon père, et de rendre sa mort plus facile. J'y suis donc retournée il y a quelques semaines pour avoir leur œil d'expert de la mort, celui du docteur Jean-François Richard, médecin en chef de l'unité de soins palliatifs de la maison médicale Jeanne Garnier.
Les 3 peurs majeures de nos concitoyens actuellement, c'est quoi ? C'est la peur de souffrir. Donc, première chose, c'est je ne veux pas souffrir au moment où je vais m'approcher de la mort ou quand je serai très âgé. Je ne veux pas souffrir. On pourra voir comment le législateur essaye de répondre à cela. Deuxième chose, je veux être accompagné, je veux bénéficier d'un accompagnement. Et là, effectivement, c'est toute la question qui se pose des personnes à domicile, la question qui se pose des EHPAD et beaucoup de personnes âgées, parce que c'est vrai que par rapport à il y a quelques dizaines d'années, il y a beaucoup plus de personnes qui sont esselées par la vie ou qui ne sont pas... Voilà, ça c'est la deuxième peur. Je ne veux pas mourir tout seul. La troisième peur, c'est je veux pouvoir donner mon avis. C'est-à-dire je voudrais qu'on écoute mes souhaits, qu'on... Et cela, on verra aussi comment le législateur peut répondre à cela. Mais c'est trois choses, vous voyez, importantes.
Le métier de ces soignants, c'est donc de soulager, d'entourer et d'écouter à un moment de bascule. Pour mon père, je me souviens exactement de comment ça s'est passé. Après l'avoir veillé plusieurs heures dans ce sommeil artificiel, je l'ai vu se réveiller. Du moins, c'est ce que j'ai cru. Il a écarquillé les yeux et il s'est relevé d'un coup. Il a ouvert la bouche, comme s'il essayait de crier. Et ses bras se sont tendus vers je sais pas quoi d'ailleurs. Il essayait de s'accrocher à quelque chose, n'importe quoi. Il avait l'air terrorisé, paniqué, fou de douleur. Et j'ai couru pour faire venir les infirmières dans sa chambre, qui l'ont rendormi. Cette vision, ce dernier sursaut avant la mort, m'a traumatisé. Je n'ai jamais réussi à effacer ce moment de ma mémoire, ce qui est parfaitement normal. Mais j'avais besoin de mieux le comprendre, de savoir que je n'étais pas seul et que ça faisait partie du processus.
Alors, ça qui peut arriver, ça s'appelle aussi d'un mot qui actuellement ne fait pas très plaisir, hein, et c'est ce qu'on appelle l'agonie.
Oui.
L'agonie, c'est le fait de combattre. C'est le dernier moment de combat avant la mort. C'est vrai que notre société, qui est habituée à ce que tout soit un petit peu lisse, en tout cas chez nous en Europe et en Occident au sens large, que tout soit un peu édulcoré, lisse et que tout se passe bien sans anicroche, ça n'a pas bonne presse. Et du coup, c'est vrai que la mort n'a pas bonne presse. Et maintenant, c'est même un droit, c'est reconnu dans la loi, le meilleur apaisement possible de la souffrance. Et tant mieux, allons vers ce meilleur apaisement possible. Mais restons humbles dans nos limites d'humain, en sachant qu'il y a des moments où il y a quand même un vrai combat et qu'il y a des situations difficiles. Certes, quand ces situations sont difficiles, sont trop difficiles, on a ce dernier recours qui est la sédation profonde et continue que l'on peut maintenir jusqu'au bout.
Quelques heures plus tard, il est mort pour de bon. Sa respiration s'est faite de plus en plus laborieuse, de plus en plus lente. Je comptais les secondes entre chaque inspiration et expiration. Et puis à un moment, il a expiré. Le personnel médical m'a laissé traîner dans sa chambre après l'avoir un peu préparé et lui avoir soudé la mâchoire pour le rendre plus présentable. Donc j'ai pu bien m'imprégner de la vision de son cadavre. Ah oui, encore un truc dont on parle peu. Quand une personne décède, son apparence change radicalement et rapidement. Et naturellement, la mâchoire se barre en sucette et tombe sur le côté, comme si elle était devenue toute molle. Ce qui contraste avec la rigidité apparente du corps. Donc un des premiers trucs qui est fait, c'est de fixer cette mâchoire pour lui donner une apparence plus naturelle. Et je ne regrette pas d'avoir assisté à ça. J'en ai eu besoin. Quand sa mort a commencé à sembler impossible, comme les restes d'un rêve étrange, je me raccrochais à cette vision de lui, méconnaissable, vide, et pourtant tellement là, pour me rappeler que si, mon père était bien mort. Je suis bien placé pour le savoir. Quand j'ai retrouvé mon père, ça faisait 3 ans que je ne l'avais pas vu, parce que nos relations ont toujours été très compliquées. Il est mort le lendemain de nos retrouvailles, ce qui fait que mon expérience des soins palliatifs a été si rapide, si brève, que j'ai pas pu me familiariser avec toutes ces subtilités. Mais le peu que j'en ai vu m'a rendue curieuse. D'abord parce que j'ai été surprise d'y être aussi bien accueillie et de ne pas me retrouver dans le mouroir que je m'étais imaginé, mais surtout parce que c'est une branche particulière qui s'occupe de moments forts et intenses dans la vie des patients et de leurs proches.
C'est un lieu de vie ici.
Oui.
C'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie et c'est un endroit où On peut entendre les proches des personnes malades, on peut y croiser des enfants, on peut y croiser tous les événements de la vie. Bon, pas de naissance, parce que nous n'avons pas l'autorisation de faire maternité. Mais il y a des mariages ici.
Ah oui ?
Ce n'est pas rare.
Oh, c'est
oui,
génial.
Il y a des mariages ici.
Oh, c'est beau.
Donc, des personnes malades qui se marient. Il y a des baptêmes pour ceux pour qui c'est important.
D'accord.
Et c'est pas rare non plus. Et puis, il y a plein de fêtes. Parce que tout le monde a un anniversaire une fois par an. Donc, il y a plein d'anniversaires ici. Il y a eu, il n'y a pas très très longtemps, c'était l'an dernier, une patiente qui a eu 100 ans. Et donc, il y a eu 100 roses qui sont arrivées.
Wow.
Et qu'elle a distribuées un petit peu à tout le monde. Donc, tout le monde avait sa rose.
Voir un proche mourir, c'est une expérience qui ne ressemble à aucune autre. Ouais, ça paraît logique comme ça, parce que c'est clairement pas anodin. Mais c'est vraiment particulier. Avoir la chance, et je dis la chance parce que je considère que ça peut réellement en être une dans certains cas, d'assister à cette mort, c'est faciliter un peu le deuil à venir. Ça a été mon cas. Avant qu'il meure, j'étais persuadée que je serais incapable de toucher un mort, même proche, ou de l'embrasser comme certaines personnes le font aux veillées funèbres. Mais quand je me suis retrouvée face à son corps sans vie, j'ai pas réfléchi. Ça s'est fait naturellement. Non seulement je l'ai embrassé sur le front, mais je suis même allée plus loin. De son vivant, quand j'étais petite, j'adorais le coiffer. Il a toujours eu les cheveux longs, et il avait toujours un peigne sur lui parce qu'il était obsédé par son apparence. Du coup, il est arrivé plusieurs fois que je me mette à le peigner à une terrasse de café, jusqu'à ce que ça m'amuse plus. Et ça pouvait durer longtemps. Le soir, chez lui, il me demandait souvent de lui faire une tresse pour que ses cheveux restent à peu près en place pendant la nuit. Et c'est donc naturellement que j'ai attrapé la brosse qui était sur sa table de chevet à l'hôpital pour le coiffer. Même si son enveloppe était vide et qu'il n'y avait plus personne pour juger son apparence. C'était un geste entre lui et moi, notre moment. Et ma mémoire corporelle a fait son boulot avant même que ma conscience puisse y songer. Quand je l'ai vu mourir, j'ai attendu qu'il ne respire plus du tout pour être sûr que c'était fini. Mais à quel moment est-il vraiment mort ?
Les critères pour définir la mort ont changé un petit peu au cours des siècles. Au tout début, c'était l'absence de respiration.
Oui.
Quelqu'un qui ne respire plus et qui paraît inanimé, il n'y a plus d'âme inanimée, il n'y a plus d'âme. L'âme est partie avec le dernier souffle, la personne est morte. Après, on s'est aperçu qu'il y a un décalage parfois entre ça et puis le cœur, quoi. Enfin bon. Maintenant, le décalage, il peut être long, parce qu'il y a des pacemakers aussi. Donc, ça peut jouer. Puis le décalage, il peut être aussi dans l'autre sens, parce qu'il y a des appareils de ventilation. Hein, et notamment, il y a de plus en plus de systèmes de ventilation que l'on dit non-invasives, les VNI, qui sont des masques, en fait, un respirateur qui envoie de l'air et qui fait respirer la personne. Et on peut avoir des situations où la personne, le cœur ne bat plus, la personne est morte, elle est décédée, mais si le masque est toujours branché et la machine toujours branchée, bah, ça continue à envoyer de l'air. Donc, c'est plus tout à fait aussi simple. Donc, mais d'accord. En fait, c'est quoi ? Là, ça ne tient pas compte aussi de ce qui se passe au niveau de l'électroencéphalogramme. Hein. On parle aussi d'électroencéphalogramme plat. Mais par exemple, on peut avoir quelqu'un qui a un électroencéphalogramme plat, mais en réanimation, mais pour qui on continue à faire en sorte qu'il y ait une ventilation, et puis un cœur qui continue à fonctionner un petit peu. Et dans certains cas, on se dit, cette personne-là, elle est morte au niveau cérébral, elle ne pourra jamais se réveiller, elle est décédée. Eh bien, elle a des reins en bon état, il y a une personne jeune qui a besoin d'un rein, ça pose la question aussi des dons d'organes, etc., si vous voulez. Alors, pour nous et pour les personnes qui vous écouteront, qui nous écouteront, c'est quoi ? C'est effectivement l'arrêt de la respiration, généralement en premier, puis ensuite l'arrêt du cœur.
D'accord.
Donc, comment ça se passe ? Si on est présent, on voit bien quand la respiration s'arrête. Quand sont les proches qui sont là, les proches voient que la respiration change. Il y a un moment où parfois elle peut s'accélérer beaucoup avant, puis après elle peut devenir irrégulière.
Ouais.
Puis après il peut y avoir, notamment dans ce temps de l'agonie, ce qu'on appelle des gaspes, c'est-à-dire des mouvements réflexes un peu inspiratoires profonds. Et puis ensuite, ça s'arrête. Et puis ensuite, on constate quoi ? Que finalement, il peut y avoir un changement de coloration. La personne devient très très pâle. Hein ? Ça change assez vite.
La curiosité a pris le dessus. Comme un enfant qui tomberait sur le cadavre d'un écureuil en forêt le ferait avec un bâton, j'ai poussé sa tête du bout de la brosse. C'était absurde. J'ai pas réfléchi, mais j'ai eu ce réflexe qui me fait toujours rire quand j'y repense aujourd'hui. J'étais si proche d'un corps mort. C'était inédit. Et ce corps mort était celui d'une des personnes qui m'ont conçu et élevé. Du coup, il était un peu à moi aussi. J'aurais pas fait ça avec n'importe quelle dépouille, mais avec lui, j'avais tous les droits. C'est tellement bizarre, un mort. Là, il était mort. Je savais qu'il était mort. Il avait l'air mort. Mais une partie de moi était persuadée qu'il allait ouvrir les yeux d'un coup et bondir en criant « Bouh !» Alors que franchement, tout dans son apparence laissait bien entendre qu'il n'allait plus rien faire du tout, et encore moins jouer à me foutre la trouille. C'est fou à quel point cette transformation physique se fait rapidement d'ailleurs. Plus les heures avançaient vers sa mort, plus il se transformait. D'heure en heure, il prenait 10 piges de plus dans la tronche. C'était très étrange. Et entre le moment où il a lâché son dernier souffle et celui où je suis partie de la clinique, ça a encore changé. Il avait l'air presque momifié, en cire. Il avait l'air faux
terriblement
et
réel.
En même temps terriblement réel. Je nageais en pleine vallée de l'étrange. J'avais beau le regarder, je n'arrivais pas à saisir la totalité de cette réalité. Alors, j'ai fait ce qui m'a semblé le plus logique sur le moment. J'ai pris une photo.
Ok, clic-clac.
Après tout, c'était parfaitement normal de prendre la pose avec ses morts à l'ère victorienne. Alors pourquoi me priver ? J'ai pas fait un selfie avec une duck face non plus, hein, ne déconnons pas. Mais oui, je me suis mise face à son lit et j'ai pris une photo. Cette photo, je la regarde jamais. Je l'ai supprimée de mon téléphone après me l'être envoyée par mail et je l'ai rangée dans un dossier intitulé « Pour mémoire ». Je ne l'ai ouvert que 2 fois depuis. Mais j'y tiens et j'espère ne jamais la perdre. Parce que cette photo me rappelle que mon père est vraiment mort. Il y a des jours où j'en doute et je sais que c'est normal. J'ai lu suffisamment de trucs sur le deuil quand j'étais enfoncée dedans pour savoir que ça arrive à beaucoup de gens. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes insistent pour qu'on regarde la mort de nos proches en face, parce que ça aide à intégrer la réalité de leur décès. Sinon, ils peuvent avoir disparu. Sinon, on peut s'être trompé. Sinon, on a peut-être enterré la mauvaise personne. Ou alors, on nous fait un sale coup. En voyant le mort mort, on ne peut plus trop douter de la véracité de l'information. Parce que comme je le disais, physiquement, on ne peut pas tromper l'œil des vivants. Quand on est mort, ça se voit. C'est une évidence. Du coup, cette photo, c'est mon encre. Elle me tient bien attachée au fait, à ce souvenir, à ce que j'ai vécu, ressenti, expérimenté à ce moment-là. Mon père est mort. Ça ne fait aucun doute. Il ne reviendra pas. Là, va y avoir de l'émotion. Attention.
Je suis prête.
Oh ! J'avoue que cette expérience m'a un peu fait comprendre cette peur de la mort que j'avais jamais ressentie avant. Je comprends que ça terrifie tant de monde, ce plus jamais. Cette fin de partie inéluctable, à laquelle rien ni personne n'échappe. Cet abîme si sombre et terriblement silencieux. C'est tout ce que je voyais à ce moment-là. Le néant. La fin. La fin. Ouais, non, j'ai pas fait la fière, j'avoue. Après des années à rire face à la mort, à hausser les épaules en disant que bof, c'est comme ça, c'est pas si terrible. Au fond, c'est pas comme si on pouvait y échapper, alors autant se détendre. J'ai compris. La mort est cruelle envers ceux qui restent.
La mort est cruelle envers
ceux qui restent. Je ne sais pas comment ça se passe de l'autre côté, mais je suis assez convaincue que les pires victimes de la mort sont les vivants. Les endeuillés.
Les endeuillés.
L'instant de la mort peut être flippant, mais après c'est fini.
Mais après, c'est fini. Tu peux lutter, de toute façon. Tu te la prends en pleine face à un moment. Tu vas peut-être vaciller et trembler un peu face au constat. Mais au moins, une fois que t'es passé de l'autre côté, c'est plus à faire.
tu vas peut-être vaciller et trembler un peu face au constat.
Plus d'émotions.
Mais au moins, une fois que t'es passé de l'autre côté, c'est plus à faire.
Plus rien.
Plus de souffrance. Stop. Plus d'émotions. Donc plus de Basta. Peur. Plus rien. Stop.
La paix.
Basta. La paix. Mais quand tu restes, t'en chies. C'est pas pour rien que quelques mois après sa mort, j'ai songé à rejoindre mon père. Pas seulement parce que je voulais le revoir, parce que je suis pas tout à fait convaincue qu'on se retrouve dans l'au-delà, mais plutôt parce que j'en pouvais plus de vivre, et donc de ressentir. J'avais trop mal. J'avais l'impression d'avoir été amputée de la moitié de mon être, de mon histoire, de mon âme. Et ce qui restait me paraissait bien trop maigre pour continuer. Ça en valait pas la peine, j'étais déjà à moitié morte. Autant aller jusqu'au bout. Bon, le fait est que je suis toujours là, et qu'un bon traitement, un retour en thérapie et un entourage solide m'ont permis de garder le cap et de réaliser qu'en fait, j'étais encore bien entière et qu'il me manquait rien d'autre qu'un père et que c'était pas si terrible. Enfin, c'est terrible, mais pas de quoi en crever, quoi. Il y a une nuance quand même. Et alors, j'ai découvert un truc super. C'est super nul, mais c'est super quand même. Quand tu perds un parent, tu gagnes une carte de membre qui te permet d'entrer dans un club super select.
Je te comprends.
Celui des gens qui ont perdu un parent trop tôt. Et ce club, il te comprend. Ce club, tu peux communiquer avec lui d'un regard, ou juste en plissant les lèvres ou en haussant une épaule, et il comprend.
Je sais.
Tu peux te retrouver dans une conversation avec 10 personnes. S'il y a un autre membre du club dans le groupe, il trouvera ton regard si le sujet s'y prête.
Je saigne.
Et parfois, dans les bonnes conditions, tu pourras avoir de vraies longues conversations sur le sujet avec ses membres. Et vous échangerez des anecdotes. Vous vous étonnerez des différences et des similarités dans vos situations. Vous vous pleurerez un peu dans les bras parfois, et vous vous direz « je sais ». Et ce « je sais » aura plus de valeur que n'importe quel autre « je sais » de compassion que vous recevrez. Parce que eux, ils savent vraiment. Par contre, j'attends toujours de rencontrer un membre du club ayant pris une photo du cadavre de son parent pour compléter ma carte des « je sais », mais c'est pas le plus important. Se retrouver directement confronté à la mort, c'est aussi créer beaucoup d'occasions d'en parler. Là où les conversations pouvaient être un peu superficielles ou très théoriques avant, elles sont forcées d'entrer dans le vif du sujet une fois qu'on a le nez dedans. Que nos proches le veuillent ou non, on va en parler. Alors certes, il y a des gens qui savent rester très secrets et discrets sur leur expérience, mais au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué, c'est pas vraiment mon cas. Moi, pour survivre, pour encaisser, j'ai besoin de parler. Beaucoup. Certains diront trop. C'est mon process, comme on dit. Et là, j'ai pu parler de la mort jusqu'à n'en plus pouvoir. Et ça m'a permis de découvrir plein de choses. Les expériences de mes proches, leurs opinions sur les sujets qui entourent la mort, et surtout, leurs peurs. Le nombre de visages que j'ai vus blêmir quand le sujet était évoqué. Quand on commençait à dire « Ah ouais, tiens d'ailleurs, toi, tu veux être enterré ou incinéré ?» Et ça se mettait à bégayer en face. C'est fou comme la peur de la mort est courante et considérée comme parfaitement normale et saine. C'est l'inverse qui est chelou. C'est les gens comme moi, pour qui le dimanche idéal est une balade dans un cimetière, et qui faisait une fixette sur la pendaison à l'âge de 8 ans. Alors attention, hein, je dis pas que je suis une originale pour autant, on est très très nombreux à abuser sur l'eyeliner noir et à connaître la maison hantée de Disneyland par cœur. Pas de quoi spammer non plus. Mais il y a clairement deux camps. Et j'aimerais bien qu'on fusionne pour voir. Que chacun aille voir ce qui se passe de l'autre côté, ce que ça fait d'être dans les pompes de l'autre. Et ce qu'on peut prendre à chacun pour tenter de vivre un peu moins dans la trouille et les préjugés. Ne serait-ce que sur la mort, c'est un bon point de départ. Et vous, vous êtes dans quel camp ? Mortel est une émission de nouvelles écoutes incarnée par moi, Taous Merakchi, réalisée par Aurore Meyer-Mailleux. Prise de son, Ashley Tola. Musique et mixage, Charles de Cilia. Coordination, Laura Cuissard, avec l'aide de Marie Jactel. Mortel est aussi sur les réseaux sociaux. Tapez @mortelpodcast. À dans 2 semaines !